France Inter.
Bienvenue à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend. Et ce matin, quelques tableaux qui font du bien, qui nous stimulent notre âme, loin du fracas de l'actualité, en compagnie de la conservatrice générale au Musée du Louvre, Dominique de Fonréau, et de l'écrivaine et chroniqueuse culturelle, Camille Jounot, des peintures qui nous permettent de mieux voir, mieux percevoir, mieux sentir nos vies, le monde, les paysages ou encore la lumière. Et vous, dites-nous quels sont les tableaux qui ne cessent de vous enchanter. Et au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez retrouver le titre des œuvres citées ce matin et que vous pouvez retrouver ensuite sur un moteur de recherche. Bonjour Christine Appelé-Douel.
Bonjour Ali.
Journaliste et autrice de ces livres qui nous font du bien, quel est votre plaisir littéraire du week-end ?
Eh bien, c'est le dernier roman chronologiquement parlant de Henri Gougaud, ce conteur, poète, romancier du Sud-Ouest à la voix magnifique.
Ce cher Henri Gougaud. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie, quel est le menu de votre chronique philo cette semaine ?
Eh bien, une question philosophique, figurez-vous, ça tombe bien. Sommes-nous tous condamnés à souffrir ?
Bonjour Guillemette Odissino.
Ah bah mince alors, non mais cette question... Oui, voilà, oui.
C'est à vous, chef de rubrique cinéma à Télérama, qui deviendra notre ami ce vendredi ?
Une jeune femme qui a été oubliée dans la peinture. Ça alors
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Quand vous n'êtes pas linguiste à la Sorbonne, vous partagez votre savoir avec nous dans votre chronique avec la langue en fin d'émission.
Eh bien, on va aussi un peu parler d'image, mais dans le langage, avec un mot qui est devenu très à la mode récemment, iconique. C'est vraiment iconique et j'espère que cette émission le sera.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
Premièrement, le choc, la surprise, l'émotion pure et qui ne se verbalise pas, impossible à verbaliser. Par exemple, ce qui m'a bouleversé dans l'esquisse pour la danse de Matisse, c'était le bleu. Ce bleu-là, c'est pas n'importe quel bleu, mais ce bleu-là, cette tonalité de bleu inventée par Matisse, m'a bouleversé au point que j'ai eu larmes aux yeux, donc j'ai quitté la salle immédiatement. Je suis pas revenu parce qu'on ne pleure pas en public devant un tableau. On peut pleurer chez soi, mais pas en public devant un tableau. Et c'est après, en réfléchissant à la qualité de bleu, que je me suis dit, en fait, dans ce bleu, il y a du rouge qui est caché, et c'est ce rouge qui, depuis le bleu, m'appelle. Bon. Mais c'est mon sentiment. Peut-être que Matisse n'a pas mis de rouge ensemble. Je pense qu'il y avait du rouge ensemble. En tout cas, moi, j'ai vu ce bleu avec du rouge. Mais chacun voit les couleurs comme il l'entend. Donc, en tout cas, c'est le premier type d'émotion touchée par une surprise, un choc, qui donc est un choc visuel coloriste. C'est le coloris qui me touche et m'appelle.
L'historien Daniel Arras. Bonjour Dominique de Fonréau.
Bonjour Ali.
Vous êtes conservatrice générale du patrimoine, chargée de mission auprès de la présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes. Bonjour Camille Jounot.
Bonjour Ali.
Créatrice du compte Instagram La Minute Culture. Et vous êtes autrice également d'un très bon livre richement illustré aux éditions du Chêne, Léonard, Frida et les autres. 8 siècles de peinture racontée en 100 artistes. Et je recommande également, Dominique de Fonréau, votre très beau guide du Louvre que vous avez coordonné, écrit. Alors, que vous inspirent ces mots de Daniel Arras sur cette émotion face à un tableau ? Est-ce qu'il vous arrive de pleurer en public, au musée, face à des couleurs qui vous bouleversent, des formes qui vous émeuvent ?
Bah, là, c'est avant tout l'émotion, c'est avant tout ça qu'il faut aller chercher, me semble-t-il, et c'est ça qu'on trouve, en tous les cas, même quand on ne le cherche pas, c'est ce que je trouve assez magnifique, et je suis très sensible à ce que vient de dire Arras, parce que c'est vrai que cette émotion, elle passe souvent par la couleur. La couleur est vraiment quelque chose, finalement, qui est une manière de nous toucher plus sensible, plus direct, et c'est aussi intéressant parce que par ce registre-là, on interroge aussi l'histoire de l'art. C'est-à-dire que ce que je trouve toujours intéressant par ce qui se passe dans le musée, c'est que notre propre émotion n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens par rapport aussi à la connaissance. Parce qu'on le sait bien, il y a eu tout un débat qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui dans le rapport entre ce qui est la ligne, c'est-à-dire le côté cérébral, et ce qui est plutôt l'émotion, c'est-à-dire la couleur. Et c'est un débat éternel que Pline évoquait déjà dans son histoire naturelle sous l'Antiquité et qui agite toujours aujourd'hui les historiens d'art et aussi les artistes. Et ce petit rien de la couleur, ou ce grand rien de la couleur, quand je pensais ce petit rien, je pensais évidemment à Proust avec ce petit pan de mur jaune chez Vermeer, hein, qui est si présent dans la recherche, mais ou ce grand de la couleur dans La danse de Matisse, qui est un tableau de grande dimension. C'est vrai que c'est quelque chose où finalement on retrouve quelque chose de très profond en nous, très profondément ancré, qui est cette manière d'éclairer le monde, à la fois avec de la joie, mais parfois aussi de la tristesse. Donc ça fait pleurer, ça fait sourire, ça réconforte. Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a peu de chagrin dans ma vie, de chagrin réel, qui ne sont pas un tout petit peu atténués par une visite au musée.
Camille Jounot.
Oui, j'ai des souvenirs très émus, notamment au musée Chagall à Nice, justement, puisqu'on parle de coloris, où là, vraiment, j'ai été bouleversée par la symphonie de couleurs de cet ensemble de peintures. Mais je vais quand même rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Daniel Arras, c'est qu'au-delà du coloris, pour moi, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est le moment. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des œuvres qui, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, à un instant T, vont me toucher particulièrement et d'en garder un souvenir très ému et de les revoir à d'autres moments et me dire « Oui, ben, je l'aime toujours cette œuvre, mais elle ne me provoque plus le même effet. » Donc la composante du moment est aussi très importante dans la façon dont on reçoit la peinture.
Guillemette.
Alors moi, ça me fait penser à quelque chose, ce contraste entre, disons, cérébralité et émotion. Ça me fait penser à un film qui s'appelle « Escalier C » de Jean-Charles Takela. Et dans ce film, il y a un critique d'art, incroyablement cynique et dandy, joué par Robin Rinucci. Et un jour, Jacques Weber, qui joue un vieux peintre, l'emmène au Louvre et lui montre juste, mais juste, le détail d'un petit nœud rose dans les cheveux d'une petite fille d'un tableau de Jean Renoir. Et il lui dit, voilà, maintenant tu te tais, t'arrêtes de faire le malin et juste tu regardes. Et tout d'un coup, ce critique cynique pleure. Et sans doute pleure pour la première fois devant une œuvre d'art. Et je trouve ce moment de grâce, presque ce kidnapping de l'émotion, je trouve que ça résume parfaitement ce moment où effectivement un moment, un détail, une couleur, une teinte plus gracieuse que les autres va vous emporter au-delà de toute réflexion.
Julie ?
Oui, ben moi ça me passionne aussi, et ce qu'a dit Daniel Arras sur le fait que l'émotion pure, c'est l'impossibilité à verbaliser aussi, ben c'est là-dessus que je travaille dans le langage, et pour la peinture, c'est exactement ça pour moi, parce que ce qui se passe de beau, c'est que l'émotion est pure, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir la catégoriser en chagrin, en colère, en frustration, en quoi que ce soit, et c'est une émotion qui nous relie avec les autres, et c'est en ça que l'art est profondément humaniste. Et moi, par exemple, je suis plus émue quand il y a de la matière, j'ai besoin qu'il y ait de la matière, de la peinture un peu... Ouais. Et pourquoi ? Parce que je vois le geste du peintre. Donc, par exemple, j'aime bien l'expressionnisme, parce qu'il y a moins d'abstrait, parce qu'il y a moins de figuratif, donc je me représente moins quelque chose, et ça m'entraîne vers la corporealité vraiment du peintre, et donc Jackson Pollock, par exemple, je l'imagine en train de peindre, et ça m'émeut beaucoup.
Thibaut.
Alors moi qui suis moins sensible peut-être à la peinture que vous tous et vous toutes, mais en revanche, ce que j'entends, c'est que c'est une affaire de rencontre. Et que souvent, on a l'impression que l'émotion, elle doit être dans le tableau, ou dans le poème, ou dans le film. Et qu'on dit, le film, il n'est pas émouvant, ou le tableau, il n'est pas émouvant si on ne ressent rien, etc. Mais si c'est une affaire de rencontre, il faut qu'il y ait aussi de l'émotion en nous, en fait. Et donc, j'aime bien l'idée que ça dépende du moment aussi, parce que si on arrive, triste ou joyeux, etc., on va nous aussi apporter, en fait, notre émotion.
Oui, c'est un échange, en fait.
Voilà, c'est une rencontre, et donc on pourrait dire, venez au musée joyeux ou venez au musée triste et il se passera des choses différentes.
Christina ?
Oui, je pense qu'il y a un élément important dans l'émotion, en tout cas dans l'émotion authentique, c'est l'effet de surprise. Et on peut être surpris, et dans le sens aussi d'être pris, par un tableau qu'on a déjà vu maintes et maintes fois, mais il suffit de le voir dans un état d'esprit, un moment de sa vie différent, et soudain, on a une espèce de révélation, comme si on tirait un rideau et qu'on aperçoit quelque chose. Et je me souviens très très bien d'être allée seule, je devais avoir, je sais pas, peut-être 17 ans, 18 ans, l'exposition d'un peintre suisse du début du siècle, son nom m'échappe pour l'instant, mais l'exposition avait lieu au Petit Palais et j'ai été littéralement...
Ça devait être Hodler.
Oui. Voilà. Et littéralement, ouais, Hodler, littéralement saisi, transporté, bouleversé, en particulier par tous les portraits qu'il avait faits de sa femme sur son lit de maladie. Je suis restée, j'étais seule, donc je pouvais pas faire la maline et faire voilà mon intéressante avec quelqu'un. J'étais complètement seule face à cette toile. Et c'est un peintre qui n'est pas très connu en France, je précise, mais qui est...
Redonnez voilà. Son nom ?
Ferdinand Hodler.
Dominique de Fonrayot.
Oui, non, ce que je trouve formidable, moi j'aime beaucoup cette expression de la rencontre que Thibault vient d'employer, parce que c'est ça que sont les musées, des lieux de rencontre. Mmh. Et des lieux de rencontre avec les œuvres, avec les autres. Mmh. Parce que le musée, c'est quelque chose dans lequel on est avec les autres et avec soi. Et je trouve qu'il y a peu de lieux comme ça, si aisément accessibles, parce que les musées sont ouverts pratiquement tous les jours et toute la journée, enfin donc c'est relativement accessible, enfin c'est même très accessible, où il y a cette possibilité de se rencontrer soi, et de se rencontrer soi à la fois de temps en temps parce qu'on le souhaite, et parfois, comme Christian le souligne, parce qu'on ne le souhaite pas, mais on est pris, on est emporté. Ouais.
J'ai hâte d'écouter vos choix de tableaux dans quelques minutes. En attendant, il est temps à 10h17 de retrouver le plaisir littéraire de Christina Pelédouel, l'autrice de ces livres qui font du bien. Alors Christina, vous avez choisi un conte posthume d'Henri Gougaud, De ciel et de cendre, publié chez Albin Michel. Le regretté Henri Gougaud, romancier, conteur, homme de radio. Henri Gougaud décédé à l'âge de 87 ans en 2024.
Oui, Henri Gougaud qu'on a tellement aimé, un personnage haut en couleur, un homme de conviction et un homme ancré. Dans sa région, qui était donc le sud-ouest, et en particulier le pays Qatar, et il était né à Carcassonne, et il avait conservé de cette enfance dans le sud-ouest et de toute sa jeunesse, puisqu'il est, comme on dit, monté à Paris, je crois, vers l'âge de 20 ans, cet accent absolument merveilleux, et dans lequel on sentait affleurer toute la langue d'oc, même lorsqu'il parlait un français à la fois d'une pureté extraordinaire, et en même temps, teinté de ce que personne n'étant pas né là-bas ne peut avoir. Vous connaissez cet accent, Ali, du côté de Toulouse.
J'ai hélas beaucoup perdu.
Oui. Mais alors voilà. Et donc ce merveilleux conteur qui était Henri Gougaud et qui était vraiment dans la droite ligne des troubadours de la langue d'oc, il était passionné absolument par l'histoire du Sud-Ouest. Au Moyen-Âge, et en particulier, bien entendu, par l'histoire des Cathares. Alors, ce dernier roman, qui est le dernier de toute sa vie, clôt, en fait, un cycle de 3 livres, qu'on peut lire tout à fait de manière séparée, qu'il n'avait pas conçu comme un tout. Mais ce dernier a été construit à partir de faits réels, et c'est vraiment tout à fait extraordinaire, et en particulier des registres de l'Inquisition de Jacques Fournier, qui était l'évêque de Pamiers, entre 1317 et 1326, ce qui rejoint d'ailleurs une peinture dont vous allez parler tout à l'heure. Et cette histoire est racontée dans le livre de Gougaud par le greffier Jean Jabot, qui était véritablement le greffier, mais dont il fait un personnage non-croyant. Alors, imaginez un greffier non-croyant dans un tribunal de l'Inquisition au XIVe siècle. Et bien sûr, on penserait que les choses seront simples, mais avec Gougaud, ça ne l'est jamais. Et toute l'histoire se passe autour des interrogations en fait de l'évêque de Pamiers et en même temps de son extrême habileté à la fois politique, religieuse, mais également libre, car cet évêque de Pamiers est très curieux. Il est à la fois plein d'interrogations, de certitudes, Et sa main ne tremble pas lorsqu'il s'agit d'envoyer les gens au bûcher, en particulier, bien entendu, des femmes, des juifs. Mais il est également très attentif à tout ce qui concerne des rumeurs et des fausses nouvelles. Nous y sommes déjà, voilà. Et dans ce livre qui est écrit avec la belle plume de Gougaud...
Il y a un côté conteur ?
Oui, il y a un côté conteur absolument, avec des personnages étranges qui apparaissent, qui disparaissent, en particulier un jeune homme blond dont on ne sait qui il est. Est-il un envoyé du ciel, mais on ne le sait pas. Et puis surtout, il y a cette langue vraiment que je trouve tellement belle. Et je trouve que quand on lit Gougaud, en réalité, on l'entend. On l'entend parler. Et moi, je vous conseille vraiment, en le lisant après ou avant, d'aller écouter, parce qu'on le trouve sur Internet très facilement, d'aller écouter un peu la voix de Gougaud quand il raconte des histoires. C'est une pure merveille. Tout est publié chez Albin Michel. C'est un auteur qu'on adore, qu'on aime.
Imprégnez-vous de la voix d'Henri Gougaud avant de lire De ciel et de cendre, publié chez Albin Michel. Allez, il est l'heure de retrouver l'ami du vendredi avec Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors, chère Ali, vous voyez la grande vague de Kanagawa, la célèbre estampe du peintre japonais Hokusai?
Je vois.
Bah oui, forcément, vous voyez. Puisque cela fait partie de ces œuvres qui se sont répandues sur des coussins, des t-shirts, des mugs, des tapis de souris d'ordinateur, des briquets, et même des torchons et des baskets. Si, si. Bon, à part ça, vous pouvez voir la vraie, hein, au musée Guimet à Paris. Mais derrière cette vague, donc l'estampe la plus connue de sa série intitulée 36 vues du Mont Fuji, se cache mon amie. Enfin, non, elle se cache pas. Elle a été engloutie. Elle se nomme Ohei. C'était la troisième fille de Hokusai. Ils ont passé la majeure partie de leur vie ensemble. Elle a été sa meilleure disciple, enfin son meilleur disciple, avant de développer son propre style. Et ils travaillaient souvent sur les mêmes tableaux, en se répartissant les tâches, comme dans les ateliers de la Renaissance. Ainsi, beaucoup d'œuvres signées par papa, souvent des commandes qu'il vendait pour le prix d'un bol de nouilles, furent le fruit d'un travail à quatre mains, et c'est elle souvent qui mettait la dernière touche afin de boucler les commandes. Au XIXe siècle, à l'époque Edo, donc ancien nom de Tokyo, la société japonaise pensait encore, comme Confucius, je cite, que l'ignorance est la vertu principale des femmes. Mais il n'y avait pas de problème d'ego, à Edo, pardon, il n'y avait pas de problème d'ego, juste une saine et piquante concurrence entre père et fille. Et Hokusai reconnaissait même que sa fille était plus douée que lui dans certains domaines, comme pour capter avec de l'encre la beauté des femmes. Cette sacrée nana qui fumait la pipe en public, imaginez, se rendait toute seule dans des maisons de plaisir pour peindre des geishas. Et comme elle était fascinée par le feu, elle se précipitait dès qu'un incendie embrasait Edo, ville à l'époque de bois et de papier.
Mais Guillemette, comment vous savez tout ça? Très très forte en histoire de l'art, plus forte que Dominique de Fonréo et Camille Jounot réunis.
Oui, alors c'est moi qui ai écrit cette romance, évidemment. Merci Ali, c'est gentil. Mais en fait, c'est surtout que je regarde des films et que je lis des mangas. Cette peintre si émancipée, que l'histoire de l'art a gommée, je l'ai découverte grâce au splendide film d'animation Miss Hokusai de Keiichi Hara, lui-même adapté du manga d'Inako Tsujura. Et cette mangaka est historienne japonaise décédée en 2005, complètement méconnue en Europe, était l'une des meilleures spécialistes de l'ère Edo. Et son manga, paru dans les années 80, est une pure merveille de détails sur cette époque et sur donc mon ami Ohei, qui s'occupait aussi beaucoup de sa demi-sœur aveugle de naissance et que leur père négligeait parce que sa cécité lui fichait la trouille. Voilà, Hokusai, lui, on le sait, est mort à 90 ans. On croit savoir qu'Ohei, elle, lui a survécu pendant 9 ans, mais personne ne sait comment ni où elle est morte. Petit détail pour finir. Dans le manga, mais surtout dans le film d'animation, la fille d'Hokusai, donc, a un joli minois, renfrogné certes, mais joli. Bah, parce que sûrement, quand même, ça se vend mieux. Hein. En réalité, elle était hyper prognate, au point que son père la surnomme gentiment « mâchoire ». Bon, mais c'est quand même elle qui s'est fait dévorer par l'oubli.
Merci beaucoup Guy Matodicino. Tous les épisodes de L'Ami du Vendredi sont à retrouver sur l'appli Radio France. Dans un instant, une sélection de tableaux qui font du bien. En attendant, on écoute Sly and the Family Stone avec interprète Family Affair, une chanson de 1971, 10h25 sur France Inter.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear. Checking each other out, hey. Nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair.
Sly and the Family Stone, interprété Family Affair.
France Inter.
C'est ça que ça fait ?
Alors celui-là, je pensais vous le laisser.
Ah non, non, mais je veux le payer, moi, là.
Oui, enfin, vous le laissez à 700.
Grande ah. Vous
savez, il y a des heures de travail, il y a la toile, les peintures.
Et puis le temps que ça sèche, quoi.
Ali Rebi.
Grand Me Bouffa ce week-end et quelques tableaux qui font du bien en compagnie de la conservatrice générale au musée du Louvre, Dominique de Fonréau, et avec la journaliste et autrice Camille Jounot. Dominique de Fonréau, on commence avec vous, avec un tableau d'un peintre majeur de la pré-Renaissance italienne, Cimabue. Et vous avez choisi La Vierge et l'Enfant en majesté, entouré de six anges. Un tableau peint vers 1275-1300 et que l'on peut admirer jusqu'au 12 mai au musée du Louvre.
Oui, merci Ali, j'ai choisi un grand tableau, hein. C'est un très grand tableau par la taille, hein. Il fait environ 4 mètres, hein, donc il faut l'avoir, qui a été peint sur bois, et qui a été peint sur bois, sur un fond d'or, et c'est un tableau très important dans la collection du Louvre, qui vient d'être restauré, une magnifique restauration, j'aurai l'occasion peut-être d'en dire quelques mots, et qui est un tableau qui a toujours beaucoup compté dans l'histoire de la peinture depuis qu'il est présenté au Louvre et même auparavant, parce que Cimabue Vasari, le grand historien de l'art du XVIe siècle, en fait un peu une sorte d'inventeur de la peinture moderne, en fait d'ailleurs notamment aussi le maître de Giotto, donc avec vraiment quelqu'un qui apporte quelque chose à la peinture. Et le tableau que je vais quand même décrire en quelques mots, c'est un tableau qu'on appelle une maesta, c'est-à-dire qui présente une vierge en majesté qui porte l'enfant, en majesté parce qu'elle nous regarde de face de manière assez hiératique, hein, et elle porte sur ses genoux l'enfant qui a une main qui bénit, et elle est entourée, ils sont entourés tous les deux de six anges superposés les uns par rapport aux autres, droits, qui les entourent et qui sont absolument magnifiques. Le tableau vient d'être restauré, et sa restauration est vraiment une révélation. On parlait de couleurs tout à l'heure et d'émotions, vraiment la révélation de la couleur notamment est absolument éblouissante, parce que les ailes des anges sont faites de différentes couleurs, chatoyantes, absolument magnifiques, relevées par le fond d'or sur lequel ils sont installés. C'est vraiment absolument éblouissant, c'est une restauration tout à fait majeure. Et le tableau est aujourd'hui exposé en ce moment dans une très belle exposition dont le commissariat a été assuré par mon collègue Thomas Ball, donc qui s'appelle Redécouvrir Cimabue, et une exposition qui est dans la salle Rosa, au bout de la grande galerie du Louvre, et qui non seulement présente, c'est déjà en soi vraiment un formidable tableau restauré, mais qui aussi essaye de montrer un peu comment s'est installée cette idée de Cimabue comme une sorte d'inventeur de la peinture moderne italienne ou de la peinture moderne européenne, tout simplement, d'une certaine manière, un peu un inventeur de la peinture européenne. Et avec une première section que j'aime beaucoup et que je trouve très intelligente, je le dis, parce que, comme Cimabue était dans Vasari, on a voulu trouver Cimabue à plusieurs reprises. Alors, Thomas montre dans l'exposition qu'on a attribué à Cimabue des tableaux dont certains étaient même de la fin du XVIe siècle, et pour un œil d'aujourd'hui, on se dit « Oh mais non, même moi qui ne suis pas spécialiste, on voit tout de suite que c'est pas ça ». Donc ça, c'est très amusant, cette enquête, ce désir de Cimabue à toute force. Et puis, quelque chose de profondément intéressant, et je trouve qui montre que l'histoire de l'art, c'est d'abord une histoire de l'art, c'est toujours une discipline qui s'invente, qui se réinvente, qui évolue, et que l'histoire de l'art nous dit beaucoup de notre monde d'aujourd'hui, et c'est bien, tant mieux, parce que c'est un regard sur notre monde d'aujourd'hui, pas seulement sur le monde d'hier. C'est combien Cimabue est redevable, non seulement, et ça on le savait, des icônes, hein, puisque justement le fond d'or, c'est encore cette tradition, évidemment, des icônes byzantines, mais aussi de tout un rapport à l'art oriental.
Ce tableau de Cimabue, la Vierge et l'Enfant en majesté entourée de six anges, est donc visible actuellement au musée du Louvre. Alors Camille Jounot, vous avez choisi peinture 162 sur 127 cm, c'est le titre de cette huile sur toile de Soulages, de Pierre Soulages, exposée au musée Fabre de Montpellier. Et cet été, il y aura une exposition Pierre Soulages pour célébrer le bicentenaire du musée Fabre. Pourquoi ce choix ?
Alors désolé pour le titre, pas du tout radiophonique, c'était pas pour vous mettre une savonnette sous le pied, Ali, mais en fait c'est le premier Outre Noir de Pierre Soulages. Ce qui est intéressant quand on lit la biographie de Soulages, c'est qu'elle est émaillée de plein de micro-légendes, de plein de petites histoires qui racontent comment il est arrivé à cette peinture, et il a une révélation une nuit de janvier 1979 où il galère. Donc il en parle lui-même comme une nuit de marécage où il patauge littéralement dans la peinture, ne s'en sort pas. Et en fait, il va se coucher, et quand il se réveille et qu'il regarde le résultat, il a une révélation. Il se dit « ça y est, j'ai trouvé une nouvelle manière de peindre ». Il le montre à sa femme qui pareil, lui se rend compte qu'il a trouvé quelque chose. Et ce qu'il a trouvé, c'est les outres noirs. Alors, l'outre noir, c'est un terme qui va évoquer à partir des années 90. Donc, ça, il va aussi post-rationaliser cette peinture-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'outre noir, c'est pas une couleur, c'est un concept. C'est l'idée de recouvrir complètement la toile de peinture et par des accidents, par des raclages, par des touches, de créer des reliefs qui permettent de faire apparaître la lumière. Parce que le vrai sujet de Soulages, ça n'est pas le noir, c'est la lumière que l'on trouve dans l'obscurité. Et je trouve que ça fait du bien aussi de parler de ça aujourd'hui. Et vraiment, c'est une peinture que je trouve très émouvante. Et le concept, c'est donc de recouvrir entièrement la toile et de créer ces accidents. Et il en fera toute une série jusqu'à la fin de sa carrière.
Christina.
Oui, Pierre Soulages est un peintre majeur, hein, vraiment impressionnant aussi par la taille de ses œuvres. Et Christian Bobin, le poète, a écrit un livre absolument magnifique sur l'amitié qu'il a liée à Pierre Soulages et qui permet, de mon point de vue, parce que Soulages n'est pas forcément d'une évidence folle, qui permet, je trouve, d'entrer dans l'œuvre de Soulages et de ce qu'il peut avoir à révéler à chacun d'entre nous.
Peinture 162 sur 127 cm de Pierre Soulages, c'est visible au musée Fabre de Montpellier. Dominique de Fonréau, vous avez choisi le couronnement de Marie de Médicis d'après Rubens, et c'est signé Roméo Mivcanine, j'espère que je prononce bien. C'est un tableau peint en 2023-2024 et qui est visible au Louvre Lens dans l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 2 juin.
Oui, alors je crois qu'on dit Roméo Mivcanine les canards, mais j'espère mais que je Patrimoine aussi ne pas dire de bêtises. Mais voilà,
je vous fais confiance. Voilà.
Et en fait, c'est Renaud Buchanan, c'est un jeune artiste. Hein, il a pas tout à fait 40 ans, qui est d'originaire du Bénin, mais qui a dans la famille d'originaire du Bénin, mais qui vit en France et qui s'est formé en France et qui a beaucoup dans son œuvre, qui est une œuvre en train de se faire, hein, puisqu'il est encore très jeune, qui interroge beaucoup aussi le passé et les images du passé dans sa peinture. Il a notamment travaillé beaucoup en puisant de sa propre histoire familiale, à propos du dernier roi du Dahomey, hein, donc Béhanzin, dont il est l'arrière-petit-fils, et en essayant de lier à la fois cette histoire familiale, la grande histoire, et en renouvelant la peinture d'histoire.
Qu'est-ce qu'on y voit.
Et dans ce tableau-là, qui n'a rien à voir avec Béhanzin, on voit une interprétation du tableau de Rubens, de Pierre-Paul Rubens, qui a été peint pour Marie de Médicis, pour la Galerie Médicis, qui est exposé au Louvre, et c'est le grand tableau, un de mes tableaux que j'aime particulièrement, le couronnement de Marie de Médicis, dont on sait aussi qu'il a inspiré Jacques-Louis David pour le sacre de Napoléon, donc c'est vraiment un tableau que l'on connaît bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mivekanan a très subtilement compris l'enjeu du pouvoir qui se met en place ici, puisqu'il a un peu assombri la peinture, il fait surgir les personnages de l'œuvre elle-même, hein, de la toile elle-même, et il se place lui-même comme un certain nombre de personnages, puisque dans ses différentes œuvres, il s'inscrit comme des autoportraits, et là, il est présent à la fois pour le roi Henri IV, qui couronne Marie de Médicis, mais aussi pour les prélats, les cardinaux qui sont là, mais aussi dans l'assistance, on voit le visage de Roméo qu'il répète plusieurs fois dans l'œuvre. Avec, on parlait de couleurs tout à l'heure, une célébration de ce qu'est Rubens, ce jeu des couleurs, ce jeu du mouvement qui est absolument remarquable et qu'il souligne de façon très forte. Et ce qui est très intéressant là, c'est que Mivekanan, il associe à la fois sa propre histoire, son propre regard, sa propre figure, l'histoire de l'art. Il questionne ce qu'est la peinture d'histoire aujourd'hui, non seulement par le format, par le sujet, mais aussi par le type d'œuvre, puisqu'en fait, il peint tout ça sur des draps libres, qui ne sont pas sur châssis, et où il mêle à la fois des enjeux de peinture à l'huile, mais aussi ce qu'il appelle des fluides, dont il ne nous dit pas exactement ce que c'est, et dans lequel il associe une partie de la couleur vaudou. Donc une très belle exposition au Louvre-Lens jusqu'au mois de juin.
Le couronnement de Marie de Médicis, d'après Rubens, signé Roméo Mivekanan. Camille Jounot, une peintre que j'aime beaucoup, Suzanne Valadon, vous avez choisi de nous présenter La Chambre Bleue.
Ah oui.
C'est peint en 1923. C'est une huile sur toile que l'on peut voir en ce moment au Centre Pompidou. Centre Pompidou qui va bientôt fermer d'ailleurs.
Oui, mais...
Mais en attendant...
On peut en profiter en attendant, effectivement.
La Chambre Bleue de Suzanne Valadon.
Tout à fait, qui introduit en fait l'exposition. Et en fait, j'aime beaucoup cette peinture parce que Suzanne Valadon reprend un motif qui est celui de l'odalisque. Donc, on a vu chez Ingres, chez Matisse. Et en fait, l'odalisque, c'est la femme dans le harem. Donc, c'est une vision complètement sexualisée et fantasmée de la femme orientale. Et Valadon, elle reprend ce motif à son compte. Sauf que là, on est dans la chambre d'une femme. Elle ne nous regarde pas, elle ne cherche pas à nous séduire. Elle est dans un pyjama rayé, donc en fait elle est complètement désexualisée, elle a une clope au bec, et finalement elle s'en fiche en fait de nous. Et elle
clairement, hein, dans le regard là, il y a...
Ouais, on n'est pas là quoi, ouais. Ça serait pareil.
Et elle a des livres sur son
c'est
lit.
C'est ça, et surtout ces livres exactement, Guillemette, c'est qu'en fait elle a deux livres, alors un livre qui a l'air d'être un livre relié, qui est plutôt un livre ancien, peut-être un livre d'histoire de l'art, et un livre de poche qui à l'époque est un objet moderne. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois cette femme, elle a, donc elle lit, donc elle a cette liberté de penser par elle-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est à la fois libre de notre regard, de l'injonction de séduire, et en même temps, par ses livres aussi, elle montre qu'elle a de la connaissance. Et c'est une peinture que je trouve intéressante parce que Suzanne Valadon, elle renverse ses codes établis. Elle s'inscrit à la fois dans la peinture et elle renverse complètement la vapeur, finalement.
Dominique ?
Oui, moi je trouve que cette œuvre est très belle, mais ce que je trouve vraiment aussi très passionnant dans l'exposition Valadon, c'est de montrer aussi tout le regard que Valadon a posé sur elle-même en train de vieillir, sur la femme âgée. Enfin, âgée, elle a mon âge quand elle se représente, mais enfin bon, âgée.
Vous êtes jeune, Dominique.
Et ça, je trouve ça, merci Ali, et ça, je trouve ça très intéressant, et vraiment l'exposition est remarquable parce qu'elle montre le développement de quelqu'un dont on pensait qu'elle était surtout une modèle, mais aussi en peintre, et une peintre qui renverse aussi les codes de la peinture.
Guillemette.
Ah, moi, je suis complètement fascinée par cette chambre bleue. C'est vraiment, c'est aujourd'hui et maintenant. En plus, il y a quelque chose d'assumé dans les rondeurs de cette jeune femme. Il y a quelque chose de très garçonne. C'est une fille d'aujourd'hui en train de se fumer une clope sur son lit. Quoi.
Donc, ce tableau, la chambre bleue de Suzanne Valadon, est visible en ce moment au Centre Pompidou à Paris. Tiens, vous, Guillemette, vous avez choisi un imposant tableau.
Ah, oui.
Hein, on peut le dire. Les noces de Cana.
C'est le plus grand des collections publiques françaises.
C'est le plus grand. Hein.
Les noces de Cana de Véronèse au musée du Louvre. Pourquoi ce tableau ne cesse de vous émerveiller, Guillemette ?
Parce que mon délicieux beau-fils qui fait des visites au Louvre me l'a fait redécouvrir, en fait, avec son regard un peu neuf.
Une nouvelle rencontre, donc.
Tout à fait. Une nouvelle rencontre avec un tableau que j'avais insuffisamment regardé. D'abord, il m'a dit que si on mettait ce tableau par terre, ça faisait la taille de mon appartement, ce qui en soit déjà ma... Non, mais pardon, mais ça compte.
Mais encore.
Alors, les noces de Cana, ce qui est fou, c'est que c'est une scène de film. C'est en ça que ça m'a fascinée. C'est une véritable mise en scène. Je vous rappelle 2 secondes et demie, hein, les noces de Cana. Le Christ est aux noces de Cana. Il n'y a plus de vin. On lui dit à l'oreille qu'il n'y a plus de vin. Et à l'oreille des serviteurs, il dit « Ne vous inquiétez pas, continuez à servir, il va se passer quelque chose. » Et en effet, c'est l'un de ses miracles. Il transforme l'eau en vin et la noce peut continuer allègrement. Et ce tableau est incroyable parce que le Christ est au centre absolu du tableau. En dessous, si on voit, là, il faut vraiment aller regarder de près. Il y a un sablier posé sur un petit guéridon qui presque est en train de dire que le Christ, son temps est compté. Et tout autour, une ribambelle de personnages. Et tout tourne, en fait, autour de cette histoire de servir du vin. Vous pouvez commencer à la gauche du tableau et vraiment faire comme un travelling et voir l'histoire, le scénario de ce tableau, c'est absolument incroyable. Et le Christ est le seul qui regarde le spectateur, à l'exception de la mariée. Personne ne nous regarde, sauf donc Jésus et la mariée qui, elle, nous regarde en mode « Qu'est-ce que je fous là ?» Je ne suis pas très très sûre d'être d'accord pour me marier avec ce mec-là. C'est fou.
Je n'avais jamais vu les noces de Cana de cette manière.
C'est exactement ça.
Camille Jounot.
Oui, en fait, effectivement, il y a un sablier à l'aplomb du Christ. Oui. Et au-dessus de sa tête, ils sont en train de découper de la viande.
Absolument.
Il y a vraiment une allusion au sacrifice qui va venir. Et au-delà de ça, ce qui est remarquable quand même, c'est que cette composition, elle foisonne de personnages, mais à la fois, on voit tout le talent de Véronèse, hein, c'est extrêmement équilibré, ça ne fait pas fouillis du tout, en fait.
Ce qui est formidable, c'est que c'est une fête. En fait, ouais, ce tableau, c'est un des événements qui est vraiment dans l'évangile, qui est une fête. Et Véronèse en fait une fête éblouissante de couleurs et de vie.
Évidemment, les noces de Cana, visibles au musée du Louvre. Dominique de Fonréau, pourquoi avoir choisi un tableau d'Axeli Galen Kalela, qui s'intitule Palo Carqui, le grand pic noir, peint en 1894 et exposé jusqu'au 29 juin au musée Thomas-Henry à Cherbourg-en-Cotentin, dans le cadre de l'exposition « 100 œuvres qui racontent le climat ». Voilà, Palo Carqui, le grand pic noir.
Alors, j'aurais pu dire pour le plaisir de vous faire dire, cher Ali, des syllabes compliquées. Mais bon, après, on va dire que vraiment, je ne
connaissais pas cette perversité chez vous, voilà, Dominique de Fonréau.
Alors donc, non, voilà, perversité exposée, voilà. C'est la pire. Non, en fait, non, quand même pas du tout. C'est parce que ce peintre, qui est un peintre donc, d'origine finlandaise, de la fin du 19e siècle, et cette œuvre est la première de ce peintre important, Axeli Galen Kalela, à être entré dans les collections françaises il y a relativement peu de temps, en 2019-2020, donc il y a vraiment peu de temps, et que ce peintre qui avait eu plusieurs expositions en France n'était pas représenté dans les collections publiques. Donc c'est vraiment une acquisition majeure d'un peintre qui, comme beaucoup dans beaucoup de pays européens, a renouvelé sa propre culture et la culture notamment finlandaise, qui à ce moment-là était, vous le savez, sous occupation russe, donc à la fin du 19e siècle. Ce tableau, c'est un tableau très saisissant parce que on voit dans un paysage ce fameux pic avec cette jolie crête rouge qui est sur un arbre un peu mort et qui domine un magnifique...
Très mort.
Et qui domine un paysage de montagne avec ce très très beau lac dans lequel se reflète le ciel. C'est un tableau qui est un tableau de paysage. Galen Kalela a essayé de beaucoup retrouvé, notamment toutes les légendes de son, du pays de la Finlande, qui étaient notamment exprimées dans ce qu'on appelle le Kalevala, et dans ce rapport de avec le paysage, et avec un paysage qui est un paysage à la fois dur, hostile, mais en même temps dans lequel on peut aussi se retrouver et retrouver une cohésion avec la nature. Et juste pour conclure, ce tableau donc a été prêté à Orsay, ce tableau qui montre la présence de la nature et la présence de l'homme de la nature à la fois comme abri, mais aussi comme manière de se distinguer, parce que c'est un tableau aussi qui met en avant la Finlande et la nation de la Finlande à un moment où elle est occupée. Ce tableau a été prêté par le musée d'Orsay au musée Thomas Henry à Cherbourg, dans le cadre de cette opération de 100 œuvres qui raconte le climat, où il y a eu donc...
Ça a l'air passionnant.
Oui, c'est vraiment passionnant. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que le climat, c'est une histoire à la fois d'écologie, de nature, mais c'est aussi une histoire d'écologie personnelle et de regard.
Et je vous laisse le soin de redonner le titre du tableau et de son auteur.
Donc, c'est un tableau d'Akseli Gallen-Kallela, donc, et c'est donc Palo Karki, le grand pic noir, et qui date de 1894.
Et on termine avec vous, Camille Jounot, cette petite sélection. Vous avez choisi un tableau d'Artemisia Gentileschi, Judith et sa servante avec la tête d'Holofernes. Ferne, visible en ce moment au musée Jacques Marandré à Paris.
Oui, tout à fait. Alors souvent, on connaît d'Artemisia Gentileschi la version, enfin le moment où elle égorge Holoferne.
Oui.
Et là, on est juste dans la scène d'après où en fait, elle et sa servante Abra vont quitter, vont quitter les lieux après.
Ça vous fait du bien, Camille Jounot. Expliquez-nous, racontez-nous. Mais allez-y.
C'est vraiment pour le plaisir de la contemplation. Hein. On voit le grand savoir-faire de la peintre, le rendu des tissus, des cheveux, etc. C'est extrêmement bien fait. Et surtout dans l'exposition, c'est exposé à côté de la version de son père, parce que la composition que moi j'aime beaucoup, qui est très resserrée sur ses figures, avec la servante qui nous fait dos, c'est vraiment très beau. Donc ça, c'est inventé par son père, mais elle va complètement transcender cette composition pour en faire quelque chose de très narratif. Et c'est ça, moi, que je retiens, c'est les regards. Oui, on a l'impression qu'elles sont allez, viens, on y va. Et j'adore le détail de l'épée sur l'épaule de Judith. On a l'impression qu'elle la prend comme un manche de pioche. Allez, hop, ça c'est fait, et maintenant non, on y va. Et je trouve que c'est vraiment une très belle peinture.
Et on peut voir donc Judith et sa servante avec la tête d'Holoferne d'Artemisia Gentileschi en ce moment au musée Jacques Marandré à Paris. Il a toujours sa tête, ce cher Thibaut Saint-Maurice. Et il est déjà l'heure de philosopher avec lui.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, c'est presque un oral du bac que vous passez, puisque votre chronique, eh bien, je vous ai demandé de réagir à cette phrase, à cette devise, on n'est pas là pour souffrir.
Oui Ali, et vous savez, je suis si heureux de pouvoir ajouter au plaisir que vous procure chaque semaine ma chronique, en y mettant cette joie supplémentaire de vous faire donc ce petit cadeau de traiter un sujet que vous avez choisi. Alors sûrement que certains ou certaines de nos auditeurs et auditrices ont déjà entendu ou ont déjà prononcé, eux et elles-mêmes, cette phrase, ponctuer sa conversation de cette remarque, en faire même une sorte donc de devise frappée au coin du bon sens, témoigne en premier lieu d'une aversion pour la souffrance et d'un refus de toutes les situations qui peuvent l'entraîner. En un premier sens donc, dire que l'on n'est pas là pour souffrir a une valeur descriptive. Cela décrit un état de notre condition naturelle d'être vivant qui fuit la douleur et recherche le plaisir. La philosophie antique, et singulièrement celle d'Épicure, utilisait cet argument sous le nom de l'argument du berceau ou l'argument des berceaux pour expliquer que notre bonheur était naturellement déterminé par le plaisir. Autrement dit, que nous sommes naturellement portés à désirer ce qu'il nous faut, c'est-à-dire naturellement déterminés à fuir la souffrance et à rechercher le plaisir, comme le bébé qui, dès le berceau, pleure quand il est dans l'inconfort et s'endort la bouche béate quand il est rassuré par le plaisir du sein, du biberon, de la couche propre ou des bras de ses parents.
Mais Thibaut, ce n'est pas qu'une description de notre condition naturelle, c'est aussi une révolte.
Oui, dire que l'on n'est pas là pour souffrir, cela revient certes à rappeler notre aspiration naturelle au plaisir, mais c'est aussi s'indigner indignés contre les souffrances que la vie se charge de mettre sur notre chemin, c'est aller donc contre un certain fatalisme qui a tendance à s'accommoder de la souffrance et de la misère en se résignant à ce qu'elle fasse partie de notre vie. C'est refuser le réel, quand bien même il s'impose à nous avec son lot de douleurs, pour y opposer la révolte de notre conscience et affirmer par là notre liberté. Le philosophe et écrivain Albert Camus faisait d'ailleurs de cette révolte contre l'absurdité de notre condition le principe de notre dignité d'homme et le facteur essentiel de notre appartenance à une communauté humaine. Camus écrit comme une sorte de théorème « Je me révolte, donc nous sommes », faisant du collectif le nouvel horizon de cette révolte contre les souffrances qui nous tombent régulièrement sur le coin de la figure. En ce deuxième sens donc, affirmer que l'on n'est pas là pour souffrir revient à prendre de la distance avec notre condition naturelle et à faire entendre sa voix. Et c'est peut-être là que s'ouvre le plus intéressant dans cette histoire. Dire que l'on refuse la souffrance suppose que l'on a pris le temps de réfléchir à ce qui nous arrive ou à ce qui se profile, suppose que l'on a pris conscience de soi comme un sujet pouvant avoir des aspirations ou des préférences différentes de ce qui nous arrive ou de ce qui se profile, et ça revient donc à affirmer une différence, la différence d'une singularité subjective. On a pris le temps de se connaître, d'être à l'écoute de soi et d'avoir suffisamment confiance en sa propre expérience, comme dirait le philosophe américain Emerson cette fois, pour ne pas se conformer sagement à ce que l'on attend de nous ou à ce qui peut nous arriver. On exprime finalement une préférence qui nous distingue et nous révèle comme une personne et non plus simplement comme un être vivant, ni même seulement comme un individu. Et enfin, si l'on va tout au bout du bout, finalement, dire que l'on n'est pas là pour souffrir suggère que l'on n'est pas là par hasard, que l'on est là pour quelque chose, pour une raison, pour autre chose en tout cas, que pour la souffrance inhérente à notre vie. Cette phrase est bien plus sage qu'elle n'y paraît, car elle exprime toutes les limites de notre condition, mais aussi tout l'infini de notre dignité, dignité qui commence donc dans notre capacité à dire non.
Élève Thibaut de Saint-Maurice, 19,5 sur 20.
Merci. C'est une petite progression.
D'être chaud au bac. Non, mais c'est passionnant parce qu'effectivement, c'est identifier ses propres besoins, ses propres souffrances, identifier aussi les raisons pour lesquelles on souffre une bonne fois pour toutes. Ça met peut-être du temps. Donc il y a un équivalent à « on n'est pas là pour souffrir », c'est « je suis trop vieille pour ces conneries ».
Exactement, très bien vu. Tous les épisodes de la chronique, des chroniques de Thibaut de Saint-Maurice sont à écouter sur l'appli Radio France. Dans un instant, la chronique avec la langue de notre chère linguiste Julie Neveu. On se retrouve juste après avoir écouté Yoa, Princesse K.O., 10h52 sur France Inter.
Oh non, c'est pas vrai, j'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête. Oh non, encore elle, c'est difficile de pas l'écouter quand
Interprété Princesse K.O.
Les aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Julie Neveu, je suis persuadée que votre chronique sera iconique.
Ah bah j'espère, Ali, hein. Oh bah, ça serait déjà bien si elle était mythique, ou légendaire, ou historique. Mais iconique, ouais, ce serait bien, ce serait en fait le mieux aujourd'hui. Ce matin, j'ai jeté un coup d'œil rapide sur Internet pour voir ce qui était iconique en ce moment. Et j'ai trouvé Julia Roberts, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, Chanel numéro 5, le Meridian Beach Plaza Restaurant à Monaco, l'iPhone, le design de la 7e génération du transporteur de Volkswagen, et aussi faites entrer l'accusé, et puis aussi les marques Tupperware, Ripollin, Poilane, vous savez, le pain Poilane. Ouais, ouais. Et puis encore le plat rougail saucisse, un plat de la Réunion.
Et on poursuit notre périple gourmand à la Réunion avec un plat iconique de cette île.
Ah, et en fait, Ali Badou dit iconique de cette île, pas iconique tout seul. Et c'est en comparant ces deux emplois, Ali, qu'on peut un peu comprendre comment la langue évolue. Un des facteurs d'évolution, comme je l'explique souvent à ce micro, c'est la recherche d'expressivité. Montrer ce qu'on ressent, la façon dont on est très impressionné par telle ou telle chose, tel événement, telle personne, tel tableau, faire ressentir la haute désirabilité d'un objet avec parfois des enjeux rhétoriques et promotionnels. Montrer qu'il est le must, ça c'était plutôt les années 1990, ou le top, ça c'était les années 1980, ou le nec plus ultra, ça c'était au 19e siècle.
1800.
Mais c'était ça a duré longtemps. Oui.
À l'époque de Christy, là. Ça. Et
non, moi c'était bien avant, vous rigolez, moi c'est les dinosaures.
Je peux faire ma chronique?
Oui.
Okay. Ou le fin du fin, ça c'était au 17e, incroyable, on le retrouve chez Molière. Et parce qu'une fois que l'expressif s'use, à force d'être beaucoup, beaucoup utilisé, il perd en expressivité et il se fait doucement dégager au profit d'un terme plus expressif. Iconique au sens lexical plein de départ est en lien avec l'icône, on en a parlé aujourd'hui, de eikon en grec, l'image, ce qui représente quelque chose, d'abord dans le domaine religieux, puis au XXe siècle de manière frappante, c'est-à-dire une figure qui incarne un stéréotype culturel. Et donc le glissement de sens se voit là, entre ce qui représente quelque chose et ce qui ne représente plus rien. On le voit donc dans la syntaxe. Cet été, pendant les Jeux Olympiques, il y a eu par exemple les deux types d'emplois. La cérémonie d'ouverture était iconique, tout court. Mais l'athlète Marie Patouillet, la championne paralympique du cyclisme, était iconique de la communauté LGBT. Elle la représentait, elle en était l'icône. Si ma chronique était iconique de quelque chose, ce serait peut-être de linguistique, de pop culture. Et le rougail saucisse, eh bien, il est iconique de la Réunion parce que le plat représente typiquement la cuisine qui s'y pratique. En fait, le glissement syntaxique vers iconique tout seul montre que le mot devient plus expressif, il se charge en sens implicite, impressionniste, en expérience vécue et se vide en sens référentiel. En gros, il décrit moins et il exprime plus. Avec cette nuance de sens propre à iconique, que par différence avec légendaire, historique et mythique qui ont trait au récit, au langage, à ce qu'on raconte de quelque chose, iconique comme emblématique mais qui n'a pas eu ce succès, parle de nos images. Peut-être que le succès d'iconique a à voir avec ce que l'historien de l'art allemand Gottfried Böhm, dans son livre, attention c'est de l'allemand, Was ist ein Bild, qu'est-ce qu'une image, a appelé fin 20e, le tournant iconique de nos sociétés de l'image. Les images sont en effet des signes expressifs qu'on surmobilise dans nos nouveaux systèmes de communication. Alors le remplacement des mots pour dire le plus désirable a aussi bien sûr un enjeu économique, dans le domaine de la mode, de la culture, du marketing. Le corps de la mode est, d'après le philosophe du langage Jean-Jacques Le Cercle, que j'adore citer, le corps visible, il est activement langage. En fait, il porte la contrainte du désirable. Et cette contrainte, elle pèse sur tous les êtres vivants qui partagent une culture et en témoignent, comme Simon Le Baron le remarquait cet été dans sa propre chronique iconique en citant
titre du Figaro, 26 décembre 2022. C'est iconique, pourquoi cette expression n'a aucun sens? Titre du Figaro, 30 juillet 2024. La photo déjà iconique du surfeur Gabriel Medina volant au-dessus de l'eau.
Et voilà, donc même les journalistes du Figaro se sont mis à dire iconique tout seul. Même eux constituent ce grand corps visible et vivent cette contrainte du corps désirable. Et c'est une nouvelle réjouissante.
Merci à l'iconique Julie Neveu qu'on peut retrouver sur l'appli Radio France pour sa chronique avec la langue. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Weekend. Merci Thibaut, Christina, Julie et Guillemette. Merci beaucoup Dominique de Fonréau du Musée du Louvre. Merci Camille Junot. Je recommande comme d'habitude la lecture de Léonard, Frida et les autres aux chaînes et votre Minute Culture. Non, ça s'appelle comme ça, oui.
Absolument, voilà. Sur Instagram.
Et tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lysiane Larbani et Cyrine Ben-Younès avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation Claire Destacan, à la programmation musicale Valentine Chedemois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien avec Agathe Le Caron et Elsa Wolinski. Lundi, j'attends toutes vos questions sur la phytothérapie, cet art de prévenir et de soigner avec les plantes.